Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre, livre de la Genèse, Genèse chapitre 1. Le verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Chers frères, chères sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat à tous. Trouver que nous n'avons peut-être pas assez insisté sur la lecture biblique ce matin, mais vous savez que les meilleures choses sont les plus courtes. Et je suis sûr que vous retiendrez ce matin le texte que nous avons lu pour introduire cette prédication. J'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir ensemble à quelques idées, deux très exactement, tout en relation avec l'évangélisation. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que notre Église va vivre dans quelques mois une campagne d'évangélisation, le grand espoir. Nous reprenons en cela le titre que la Fédération, en mai dernier, avait donné à sa campagne fédérale. Nous voulons même avoir un slogan qui reviendra tout au long de cette année et même parfois de façon impromptue, comme ce matin, un leitmotiv. Lance-toi pour Christ, car après tout, qu'est-ce qu'une campagne d'évangélisation si ce n'est la possibilité de nous lancer, non pas à l'assaut, mais à la recherche de ceux et celles chez qui le Christ travaille d'ailleurs probablement déjà, pour aller un petit peu plus loin avec eux dans ce domaine et notamment les inviter à ce qui se passera ici chez nous en avril prochain. Ainsi, ce matin, une réflexion, quelques réflexions sur le thème de l'évangélisation me paraissent adaptées pour nous placer sur ce chemin missionnaire qu'est le nôtre. La première réflexion qui justifie le texte biblique que nous avons lu, je la tire de la notion de ressemblance. Et nous pourrions appeler cette première réflexion l'éloge de la ressemblance. Les chats ne font pas les chiens. Vous savez qu'un enfant retient la moitié génétique de sa maman et de son papa de façon parfaite. C'est ce qui explique en grande partie, pas que, les ressemblances qui sont constatées entre nous-mêmes et nos enfants, d'une génération à l'autre. Ce qui est même intriguant dans ce constat de ressemblance, c'est d'en percevoir aussi toute l'ambiguïté. Et pour cela, je ferai appel à un auteur connu, Proust. Dans l'un de ses ouvrages, La recherche du temps perdu, il présente une adolescente, Gilberte, qui ressemble tantôt à son père, tantôt à sa mère, mais l'ambiguïté provient ici du fait qu'elle ressemble à sa maman lorsqu'elle exprime un trait de caractère ou un sentiment qui est cher au papa, présent chez le papa, et vice-versa. Elle ressemble au papa quand elle manifeste intellectuellement, émotionnellement, un trait de caractère qui provient de la maman. C'est dire toute la perplexité, tout le mystère, toute la complexité de ces ressemblances. Les ressemblances ne sont d'ailleurs pas que d'ordre généalogique ou biologique. Lorsque nous allons dans la rue, à Paris par exemple, et que nous marchons dans les rues, eh bien nous sommes en présence de milliers de gens qui nous ressemblent. C'est d'ailleurs ce qui définit l'identité humaine. Et il est important, je le crois, de remarquer que nous avons avec tout cela, non seulement les membres de notre famille, mais avec chaque frère et sœur dans l'humanité, des ressemblances, des points communs. Pourquoi ? Eh bien, parce que qui se ressemble, s'assemble, tout simplement. Vous remarquerez que les grandes révolutions que l'histoire du monde a connues, même spirituelles, je pense au réveil du XIXe siècle, procèdent en grande partie de points communs que se sont trouvés ceux et celles engagés dans ces mouvements. Et lorsque nous sommes ainsi en face de nos ressemblances, nous trouvons par elles le moyen d'une unité, le moyen d'une union dynamique. Les ressemblances, lorsqu'elles sont reconnues, provoquent souvent de grands mouvements. Et quelque part, c'est ce que nous recherchons lorsque nous voulons organiser en avril prochain une campagne d'évangélisation dans ce lieu. Nous voulons créer un mouvement d'intérêt pour la foi en Jésus le Christ. Et je le crois, si je suis le process que je viens d'indiquer, qu'il nous faut pour cela trouver avec l'extérieur le plus grand nombre de points de ressemblance, de convergence, de points communs. Nous en arrivons de facto à la notion d'évangélisation. Posons-nous quelques questions relatives à cette notion ô combien risquée, parfois même dangereuse. Qu'est-ce que l'évangélisation ? Je crois que l'évangélisation, c'est d'abord une recherche avant d'être une conquête. C'est d'abord une recherche avant d'être une conquête. Et nous avons dit clairement la nature de cette recherche, la recherche des points communs, des ressemblances. Je ne pense pas que nous pouvons véritablement évangéliser, dans le sens pur et noble du terme, si nous ne sommes pas porteurs de cette mentalité du chercheur, et certainement pas de celle du conquérant. Et ce, pour une bonne et simple raison. L'établissement de relations authentiques, vraies, avec ceux et celles, vers qui nous voulons nous tourner, pour qu'ils puissent rencontrer, plus qu'ils ne l'ont déjà fait, le Christ Jésus. Pour évangéliser, il faut créer du lien. Et pour créer du lien, il faut être humain. Et pour être humain, il me semble qu'il faut se tourner vers celui que nous espérons gagner à notre foi de la façon la plus curieuse, intéressée dans le bon sens du terme, humaine, respectueuse, tolérante qu'il soit. Et certainement pas avec cette idée que nous aurions quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'il nous faut le leur apporter coûte que coûte. Et dans l'histoire du christianisme, le coûte que coûte a bien coûté des vies à ce jeu-là. Vous remarquerez que si nous sommes empreints de cette mentalité missionnaire, celle de la recherche, nous allons, au-delà du discours que nous allons proposer, ou qui sera proposé dans ce lieu, si ceux et celles vers lesquels nous sommes tournés viennent à honorer nos rendez-vous, nos invitations, nous allons avant tout cela répondre à un besoin fondamental aujourd'hui chez l'humain et dans la société, le tissage de relations authentiques. La semaine dernière, Carl Johnson nous a parlé de l'opération André. Et l'opération André, c'est très simple, c'est créer des relations interpersonnelles de qualité, créer des amitiés pour pouvoir ensuite parler de notre foi et donc témoigner. Évangéliser, c'est donc avoir ce regard bienveillant, ce regard de chercheur qui nous invite à regarder l'autre non pas comme un supérieur, un alter ego, pour lui apporter quelque chose que nous avons peut-être en plus, peut-être différemment de lui, et s'en tenir à cela. Dès lors peut s'installer entre celui-là et nous-mêmes une relation interpersonnelle, vraie, authentique, respectueuse. Nous le disions, et dès lors nous répondrons à ce besoin ô combien important dans notre société, la qualité des relations interpersonnelles. Nous allons pour la plupart, dans quelques jours, partir de chez nous pour retrouver des membres de notre famille ou des amis et nous allons fêter ensemble les fêtes de fin d'année. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous allons rester chez nous et ce sont les membres de notre famille ou nos amis ou parfois même nos voisins qui seront invités à notre table. Et c'est très bien. Nous appelons ça les fêtes de fin d'année ou encore la fête de Noël, peu importe. Mais il y a beaucoup, surtout de personnes âgées, qui dans cette ville, par exemple, dans les endroits où nous allons nous rendre pour visiter notre famille, resteront seules. Et nous savons tout cela, nous qui regardons un peu la télévision et qui voyons les efforts que certaines associations essayent de fournir envers ces personnes-là, efforts retransmis souvent à la télévision, donnant lieu à des émissions de compassion. Lorsque le missionnaire, lorsque l'évangéliste est porteur de cette quête de la recherche plus que de celle de la conquête, il se tourne, je le crois aussi, d'abord vers cela. Et il rend à cela un besoin. Le besoin d'une relation, le besoin d'un contact. Il apporte à celui-là le besoin. Il répond au besoin dont il a. Et il y a ici un devoir incontournable que seul l'élan missionnaire peut donner aux chrétiens que nous sommes et qui justifie aussi l'élan missionnaire. Seul l'élan missionnaire peut apporter à ceux-là dans ce monde-là ce dont ils ont le plus besoin aujourd'hui. Nous vivons un monde dont la caractéristique principale est celle de l'individualisme. Évangéliser le monde avec cette mentalité, c'est quelque part prendre le contre-pied de cet individualisme rampant. L'autre intérêt de cette vision missionnaire basée sur la recherche et non la conquête, c'est de redonner à la société la possibilité d'un miroir. Et je ferai appel à un auteur très ancien pour nous indiquer tout cela, un dénommé Pline l'Ancien, à ne pas confondre avec Pline le Jeune, plus connu. Pline l'Ancien est un auteur romain qui mourut à l'occasion de l'éruption volcanique du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et voilà la critique que cet auteur antique fera de ses concitoyens à l'époque. Aussi sont-ce des images de leur argent et non de même que les Romains décadents laissent à la postérité. Je crois que cette citation convient parfaitement bien aujourd'hui, malgré les 21 siècles qui nous séparent d'elle et de son auteur. L'un des grands problèmes posés par notre société mercantile et consumériste est bien la création d'une superficialité ambiante qui gangrène toutes les personnes et toutes les relations. Cette superficialité étant elle-même le produit d'une quête suprême et universelle, celle de l'argent. Ainsi, nous pouvons proposer un tandem infernal. Argent égale superficialité, voilà en grande partie la griffe, la patte de notre société. Prenons quelques exemples qui indiquent cela de façon évidente et éloquente. 14 millions d'euros annuels net d'impôts pour Zlatan Ibrahimovic, un footballeur du Paris Saint-Germain. Aussi n'est-il pas étonnant de voir cet homme s'offusquer quand un journaliste l'interroge sur l'un de ses coéquipiers. Quand on est ainsi payé, on ne supporte pas ne pas être au centre de tout et tout le temps. Un autre exemple, le niveau affligeant des dialogues et conversations dans les émissions de divertissement, dont souvent le moteur est le gain d'une somme d'argent. Encore une fois, nous vérifions ce lien entre quête des richesses et superficialité, vanité du discours et des personnalités. Les joutes politiques, qui ne relèvent plus trop de l'intérêt pour la cité, mais de l'ambition personnelle. Vous voyez probablement à quoi je fais allusion. Ici, le pouvoir semblerait remplacer l'argent, quoique, qu'en savons-nous ? J'ai l'impression qu'il faudrait proposer à tout cela, et plus généralement à notre monde, un grand miroir, révélateur de ce qu'il est, de sa superficialité, de son vide, de son néant, parce qu'orienter vers une quête qui n'est pas bonne, celle de l'argent, essentiellement. C'est là, je le crois, l'une des utilités fondamentales de l'œuvre missionnaire. Ramener tout le monde à la réalité. Nous pourrions aussi dire faire revenir tout le monde sur terre, faire atterrir le monde, le sortir de ce vol, de cette bulle enivrante dans laquelle le tandem argent-superficialité joue à merveille le rôle d'opium du peuple. Ainsi, évangéliser peut conduire le monde vers l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel ? Qu'est-ce qui manque à ce monde ? Ce que j'appellerais le bien. Ce qui nous amène à nous poser une autre question, qu'est-ce que le bien ? Pour ceux qui ont suivi des études bibliques avec moi pour la préparation au baptême, par exemple, j'aime à définir le bien comme suit. Le bien, c'est très simple. C'est un petit A, un petit B. Le petit A, je l'emprunte au prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son Rédempteur, le Seigneur Yahvé des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Voilà le petit A du bien. Reconnaître l'existence et la souveraineté de Dieu dans ce monde et dans l'espace. Mais il y a une conséquence indispensable qui annule la première si elle n'est pas immédiatement enclenchée. Vouloir dépendre de ce Dieu. Et je prends maintenant un texte tiré du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, au verset 1. Il pourra paraître un peu anachronique, mais lorsque nous l'expliquerons, il conviendra parfaitement, vous le verrez. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. » Ce texte ne nous invite pas à nous faire tout petits devant Dieu, à ne rien dire et à le laisser parler. Il nous invite à comprendre qu'ici, il est le seul, l'unique Dieu. Nous avons tout intérêt à entrer en relation de dépendance avec lui. Car si tel est le cas, c'est cette toute-puissance, cette omniscience et toutes les qualités de ce Dieu qui nous sont données, qui sont mises à nos côtés pour nous aider ici-bas à mieux évoluer, à mieux vivre. Plus encore, à gagner quand le temps sera venu, le ciel et ses trésors. Se lancer à la poursuite du monde, à la recherche du monde pour l'évangéliser, c'est servir à ce même monde ce miroir indispensable qui lui permettra de réfléchir, de voir et d'accepter, espérons-le, toute sa vacuité pour s'ouvrir à une véritable proposition de vie, à une vie qui en vaut la peine, celle dont nous venons de dire qu'elle résidait essentiellement en la reconnaissance de la présence, l'existence et la souveraineté divine et dans le désir consécutif de dépendre de cette souveraineté. Y a-t-il un plus beau projet que celui-là ? Facile de le dire, mais c'est beaucoup plus difficile de l'intérioriser, de l'intellectualiser, de le penser. lorsque nous lançons cette affirmation, est-ce que nous réalisons ce que nous disons ? Reconnaître que Dieu existe, et qui plus est, qu'il est possible de dépendre de lui, de s'attacher à lui. Imaginez que nous arrivions par notre témoignage, par notre discours, par nos attitudes, à convaincre ceux qui sont autour de nous de cela. Quel changement de paradigme ! De la vacuité, nous passons dans la réalité, de l'insipide dans le constant, dans le concret, dans le consistant. Nous ne pouvons pas sous-estimer la capacité qu'est la nôtre de témoigner de ce projet. Peut-être que nous nous disons, oui, mais nous, ici, dans cette église, nous, les croyants, nous sommes convaincus de tout cela parce que nous avons été éduqués dedans, parce que nous avons rencontré un jour le Seigneur, nous l'avons accepté, mais à l'extérieur, nous savons que c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il faille nous livrer à un complexe d'infériorité. Et même s'il est vrai que la tâche est complexe, il ne faut pas pour autant ne pas la regarder, ne pas l'envisager avec espérance et avec zèle. Et j'aimerais pour cela vous livrer l'expérience d'une jeune fille que j'ai connue lorsque j'étais à Collonges. Une jeune fille d'origine coréenne mais de nationalité américaine, Jennifer, et qui, à l'occasion d'un culte, le vendredi soir ou un autre moment, peu importe, livrait le témoignage de conversion de sa famille. Voilà que cette famille était arrivée aux États-Unis depuis sa Corée natale, et que se posait la question de l'intégration dans la société américaine. Et la démarche de cette famille a été de se dire, nous allons, en termes de foi notamment, de spiritualité, chère aux Asiatiques, essayer de comparer toutes les offres placées sur ce marché. Nous sommes aux États-Unis. Et voilà que la famille s'est livrée à un temps assez long d'observation en fréquentant un certain nombre d'églises différentes. Et après avoir analysé, observé et jugé de la qualité des défauts de chacune de ces églises, eh bien l'une d'entre elles a été acceptée, vous comprenez laquelle. Je crois que des gens de cet acabit, des chercheurs à leur tour de ce genre, il y en a beaucoup dans la société, et particulièrement aujourd'hui. Je vous rappelle les paroles de cet homme de culture, André Malraux, « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ». Cet homme était un visionnaire. La quête de la foi est probablement aujourd'hui l'une des quêtes les plus ancrées à l'humain, même s'il est plus enfoui aussi. Et lorsque nous nous proposons à travers l'œuvre missionnaire à ceux et celles qui cherchent une voie de spiritualité ou ne savent pas qu'elle est encore bien enfouie en eux, eh bien nous sommes quelque part un miroir qui révèle ce besoin. Peut-être parmi ceux-là, y a-t-il des gens comme cette famille coréenne qui cherche, essaie de comprendre, observe et attend qu'une parole, qu'un discours, qu'une attitude de vie soit proposée adéquate avec l'analyse préalable qu'ils auront faite afin de s'engager en toute liberté, en toute connaissance. J'aime voir ce miroir qu'est l'œuvre missionnaire comme la possibilité de résurrection, de talent, d'aspiration, de dimension pleinement enfouie aujourd'hui à cause de notre société, de sa complexité, de sa dureté et bien d'autres raisons. Je me souviens d'un ami qui, alors qu'il s'était orienté dans des études pour devenir avocat, assista un jour à un concert de musique classique, un monde qui lui échappait complètement. Un monde duquel il était complètement détaché. Il avait tout juste une culture musicale qui était plus une culture pop, nous dirions-nous, rock. Et voilà qu'entendre dans cette église ce jour-là, et écoutant un concert assez spécifique, presque d'initié, puisqu'il s'agissait de Rachmaninov, l'illumination. L'illumination. Drame familial. Ce jeune homme arrête ses études de droit, part s'inscrire dans un conservatoire et décide de se mettre au piano. Et aujourd'hui, ce jeune homme est pianiste. Je crois que lorsque nous nous lançons à la recherche du monde et que nous nous comportons tel ce miroir révélateur, eh bien, nous pouvons donner la possibilité à ceux et celles qui ont ces talents enfouis, ces vocations enfouies, de les réveiller, de les ressusciter et surtout de les pratiquer. Peut-être qu'aussi l'un des intérêts issus d'une perception de la mission qui relève de la recherche bien plus que de la conquête, c'est aussi pour nous les croyants. Vous avez remarqué la difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre société à prononcer le mot évangélisation. Je suis convaincu que lorsque vous allez vous tourner vers vos amis pour les inviter en ce lieu, vous n'allez pas leur dire que vous voulez les évangéliser. Le simple fait de prononcer ce mot provoque un malaise. Posons-nous la question du pourquoi. Pourquoi ? Bien parce que l'évangélisation moyenâgeuse, parce que les croisades, parce que l'inquisition, parce que le christianisme, et c'est un paradoxe pour ne pas dire une apostasie, a souvent fait rimer évangélisation avec conquête. Nous percevons souvent l'évangélisation comme une mission, comme un devoir, comme un impératif. C'est vrai. Mais enfin, soyons intelligents, équilibrés. Nous ne partons pas en guerre. Nous ne sommes pas des djihadistes. J'aime beaucoup le titre de ce livre d'Ellen White. Nous sommes des conquérants pacifiques. Lorsque nous comprenons l'évangélisation ainsi, nous nous donnons la possibilité d'être aussi de véritables chrétiens. Je crois que parfois nous sommes un peu les victimes d'un certain confinement qui règne dans nos lieux. Nous sommes bien entre nous, développons une théologie, une identité, l'adventisme. Nous avons des valeurs, nous les pratiquons, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, nous finissons par fonctionner en vase clos, qu'entre nous, une sorte de clubbing. Et il ne peut émerger de cette réalisation-là qu'un sentiment quelque part, peut-être d'ailleurs pour protéger le groupe, de supériorité. Nous avons compris des choses qu'ailleurs ils n'auraient pas compris. Et forcément, s'il se propose à ce moment-là une action missionnaire, eh bien c'est porteur, entre guillemets, de ce triomphalisme que nous allons nous tourner vers les autres. Non, l'évangélisation nous amène d'abord à l'humilité, notamment lorsque nous considérons la difficulté de la tâche. Je me souviens, lorsque j'avais 14-15 ans, nous allions mois de septembre, octobre, je ne me souviens plus, dans les rues de la ville de Béziers pour la collecte missionnaire. Mais très franchement, c'était dur. Encore, quand nous étions avec une personne âgée, ce que je faisais souvent, ça va. Les commerçants avaient un certain respect pour elle. Mais je me souviens, lorsqu'avec le fils de l'ancien, nous sommes allés tous les deux, du haut de nos 14-15 ans, taper aux portes de certains commerçants, il a fallu partir en courant. Et c'est vrai. On nous traitait de voleurs. évangéliser, c'est quand même pas évident. Et lorsque nous allons comme ça proposer notre Dieu, je crois que la principale des qualités, ce n'est pas celle de la présomption, mais celle de l'humilité. Pourquoi avons-nous besoin de cette humilité, de cette perception humaniste, tolérante, nous avons commencé par ça, du monde ? Pour nous donner du courage. Nous devons être des chercheurs plus que des conquérants. Mais nous devons chercher quoi ? Chercher les autres. Mais quoi chez les autres ? Nous devons chercher chez les autres, permettez-moi l'expression, je sais qu'elle va en choquer certains, ou peut-être faire peur, les traces de la divinité, les parts, les arts de la divinité qui se trouvent chez tout à chacun. Alors je ne suis pas devenu en quelques semaines, depuis ma dernière prédication, un disciple de Dan Brown, l'auteur, rappelez-moi le titre, du Da Vinci Code, merci. Non, je pense être tout à fait réaliste et très, très cohérent. Heureusement, il n'y a pas que dans l'Église adventiste que les mamans aiment leurs enfants. Heureusement, les relations amicales, de qualité, les témoignages de solidarité ne se trouvent pas que dans le christianisme ou dans les religions. Il est aussi présent dans d'autres sphères sociales, pas forcément religieuses ou spirituelles. Et nous pourrions ainsi multiplier les exemples de présence divine dans le cœur des hommes. Car en effet, tous ces témoignages de vie, tous ces témoignages d'amour, ne peuvent être que le produit de la présence de Dieu. Car Dieu est amour. Dès lors que je constate quelque part une trace d'amour, je dois pouvoir voir au bas du document la signature Dieu. Et je crois que ça me donne du courage. J'en reviens à la mission. Bien évidemment, c'est difficile. Bien évidemment, il y aura des moqueries. Bien évidemment, il faudra peut-être courir. Mais ceux et celles qui sont en face de moi sont quelque part aussi des enfants de Dieu. Non seulement des enfants de Dieu parce que nous sommes tous par le jeu de la procréation des enfants de Dieu, mais parce que Dieu travaille en eux à travers tous ces signes dont je viens de lister quelques-uns. Et je crois qu'il y a matière d'encouragement ici. Nous ne sommes pas qu'en terrain ennemi. Nous sommes aussi quelque part en terrain conquis. Toute la difficulté peut-être, c'est celle de la nature du dialogue et de la relation qui sera mise en place entre nous et eux, eux et nous. J'en termine avec la deuxième réflexion. Nous avons parlé de ressemblance, éloge de la ressemblance. Nous allons maintenant faire l'éloge de la dissemblance. Nous avons dit que nous avons beaucoup de points communs avec le monde, des traces de divinité que nous partageons, et qu'il nous fallait voir toutes ces ressemblances pour nous livrer d'autant mieux à l'œuvre et l'action missionnaire. Mais je crois qu'il nous faut aussi cultiver la notion de dissemblance. D'ailleurs, je crois voir cette bipolarité, ressemblance, dissemblance dans le texte que nous avons lu. Ce texte insiste de prime abord sur la notion de ressemblance. Nous sommes image de Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on me voit, lorsqu'on vous voit, on voit Dieu. Quand on voit une image de Philippe Bob, on voit Philippe Bob. Mais en même temps, le texte me dit que nous sommes différents. Parce que ce Dieu apparaît sous l'angle du Créateur. Et un Créateur, il n'y en a qu'un. Les images ne sont pas créatrices. Seule la réalité qui induit l'image est créateur. Vous voyez donc cette ambivalence, à la fois proche, mais très lointain. Ressemblance, dissemblance. Dieu se montre et il se cache. Pourquoi ? Il nous faut aborder le texte sous un angle pédagogique, je crois. Nous en parlions un peu pendant l'école du sabbat. Je crois que Dieu nous invite à faire un pari extraordinaire, un pari fou. Celui d'essayer de reproduire dans notre vie une impossible reproduction. Un peu comme si Dieu nous disait, nous sommes images, nous sommes très proches, vous allez devoir me ressembler, mais en même temps, vous n'arriverez jamais à me ressembler. Dès lors, peut s'engager en nous, si nous prenons Dieu au mot, un processus de progression infinie, éternelle. Nous sommes finalement mis en place d'une quête inaccessible, d'un Graal que nous ne découvrirons jamais. Mais l'important n'est pas de toucher, l'important c'est d'aller. Et grâce à cet élan, à cet allant aussi, de trouver la possibilité d'une progression. Et je crois, si nous transposons cette logique dans le domaine missionnaire, qu'il y a là un service que nous nous rendons, nous, croyants, à nous-mêmes, en termes de foi, de spiritualité, de sanctification, nous pourrions dire. Lorsque nous voulons apporter Dieu à l'extérieur, nous apportons un absolu à travers notre discours, à travers notre comportement. Et nous sommes sans cesse invités à apporter cet absolu puisque nous ne l'avons jamais contenu, maîtrisé, réalisé. De même, cette proposition est celle qui est faite à ceux et celles vers qui nous nous tournons. Nous vous proposons un idéal qui ne sera jamais atteint, mais vers lequel il faut pour autant aller. Cet idéal, c'est le divin, c'est Dieu lui-même. J'aime ce texte biblique qui dit que le pire des fléaux, c'est l'oisiveté. Et nous sommes oisifs et donc confrontés au pire des fléaux lorsque nous n'avons rien à faire, aucune ambition, aucune quête. Vous remarquerez que l'un des gros problèmes dans nos banlieues, c'est aussi celui de l'oisiveté générée par la précarité de l'emploi. Évangéliser aujourd'hui, c'est proposer un projet fou. Il démarre ici. Il nous amène dans les cieux, et même dans les cieux, il ne sera jamais réalisé complètement parce qu'il s'agit de rencontrer, de toucher Dieu. Et cela, nous ne le pouvons. Voilà, rapidement dit, car le temps passe, quelques réflexions qui, je l'espère, nous aideront à comprendre qu'en avril prochain, nous aurons ici un moment important, à la fois lorsque les dates prévues seront là, mais un moment important pour nous permettre dès aujourd'hui de vivre tous les intérêts, plus ou moins listés ce matin, de l'évangélisation pour chacun de nous, nous les croyants, et d'apporter tous les intérêts d'une œuvre missionnaire à ceux et celles nombreux qui se trouvent à nos côtés. Demandons à Dieu de nous aider à percevoir ceux et celles vers qui nous pourrions déjà aujourd'hui nous tourner. Demandons à Dieu de nous aider à imaginer, penser à ceux vers qui nous pourrions nous tourner dans les jours, dans les semaines qui viendront, avec cet objectif, mais aussi et surtout grâce à cet objectif, la possibilité de renouer avec eux dans une relation vraie, authentique, qui fera de nous des chercheurs d'âme, des serviteurs en Christ. C'est là ma prière. Amen.